journal. Bonjour Florence Paracuelos.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, la fin d'un des grands suspens littéraires de l'année. On saura dans quelques instants qui remporte le prix du livre Inter 2020. Avant d'y revenir plus longuement avec vous, Nicolas et Léa, à 8h20.
Oui, un grand entretien avec le ou la lauréate du livre Inter. À ses côtés, le président du jury, Philippe Lançon, Eva Bétan, ainsi qu'une jurée de cette édition 2020. Vous pouvez participer, amis auditeurs, 01 45 24 7000.
Ils sont la génération sacrifiée de l'emploi, les jeunes diplômés, derniers arrivés sur un marché du travail sinistré par la crise du Covid. Certains, du coup, vont poursuivre leurs études. Un jour par semaine, en visioconférence, le Ségur de la Santé lancé il y a 15 jours avance lentement. Les soignants attendent toujours du concret, vous les entendrez. Dans ce journal aussi, une rencontre exclusive avec l'oncle de George Floyd à Houston, où ses obsèques auront lieu aujourd'hui et demain. Le procès de l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme à Paris, Lamine Diak, accusé d'avoir monnayé son silence sur le dopage des athlètes russes aux Jeux de Londres. Et puis la réouverture des aéroports de Lyon et de Nantes aujourd'hui, fin d'une parenthèse enchantée pour leurs riverains qui vont devoir se réhabituer au son des réacteurs.
France Inter.
Ils ont passé des semaines à lire et à argumenter dans leur tête. 24 jurés, 10 romans et un seul lauréat, désigné dans le secret des délibérations hier et avant-hier sous la présidence de Philippe Lançon. Bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui nous révélez le nom de l'heureux élu du prix du Livre Inter 2020.
Oui, donc le prix du Livre Inter 2020 a été décerné à Anne Poli pour son livre « Avant que j'oublie » aux éditions Verdier.
Philippe Lançon, c'est un premier roman. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire de ce livre ?
Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que donc c'est un récit, ce qu'on pourrait dire que c'est un récit de deuil. C'est-à-dire l'auteur, finalement, à l'occasion de la mort de son père, ça raconte à la fois la procédure du deuil de son père, et fait un portrait à la fois de son père et des relations qu'elle pouvait avoir avec lui et aussi avec son frère, et à travers ça nous dresse le portrait d'une famille. Mais ce qui fait la caractéristique de ce livre, parce que des récits de deuil on en a lu beaucoup, c'est évidemment l'écriture, c'est-à-dire que c'est un livre extrêmement bien écrit et qui sait allier deux choses que très peu de gens savent faire, c'est-à-dire l'humour et même un aspect extrêmement burlesque, parfois presque absurde, au chagrin et à la tristesse. Alors, et donc on est toujours de ligne en ligne et de page en page, le lecteur est comme un funambule entre les deux. Vous voyez.
Alors Philippe Lançon, on va en reparler plus longuement à partir de 8h20, mais juste en quelques mots, dites-nous, les débats ont eu lieu samedi et dimanche, il y a eu 3 tours de scrutin, ça a été très disputé.
Ça a été disputé, mais la seule chose que je puisse dire ici, oui, c'est long, mais c'est normal, parce qu'il faut que chacun puisse s'exprimer. Il y avait donc, comme vous le disiez, 23 jurés, et les jurés, ils ont été très consciencieux, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup travaillé, ils avaient lu les livres, ils avaient pris beaucoup de notes. Donc, bien entendu, chacun veut pouvoir à la fois défendre les livres qu'il aime, et aussi expliquer pourquoi il n'a pas retenu certains livres. Et donc ça prend beaucoup de temps. Mais par ailleurs, la seule chose que je puisse dire, c'est que le livre de Anne Poli a été immédiatement dans le petit peloton de livres qui était parmi les plus aimés. Voilà.
Merci Philippe Lançon. À tout à l'heure, on se retrouve à 8h20 pour parler plus longuement de ce livre Inter 2020 avec la lauréate, avec un juré, avec Eva Bétan qui est déjà là autour de la table. Diplôme en poche, il devait entrer dans la vie active dès cet été ou à la rentrée, mais la crise du Covid en a décidé autrement. 700 000 jeunes sur le marché du travail chaque année. La promotion 2020 voit son avenir bouché, activité au ralenti, explosion du chômage, offre d'emploi en chute libre, moins 70% pour les jeunes diplômés au mois d'avril. Pas réjouissant après des années d'études, Manuel Ruffez.
Elle se prénomme Maya, elle a 24 ans, tout juste diplômée en Master 2 de gestion globale des crises et des risques, ça ne s'invente pas. Elle sent bien que quelque chose cloche.
Ça s'annonce plus dur que pour nos prédécesseurs, ça c'est sûr.
Elle raconte qu'habituellement les étudiants de son master sont démarchés directement par les employeurs. Cette année, Rien de tout ça.
Il y a pas mal d'offres, mais il y a peu d'offres qui concernent des juniors ou des gens qui vont entrer sur le marché du travail sans expérience. C'est beaucoup plus axé sur des profils qui ont déjà un bagage et qui pourront vraiment aider une structure. Il y a aussi une inquiétude généralisée à cause de ça, quoi.
L'Association nationale des DRH a bien conscience de cette problématique. Pour elle, prendre un jeune en alternance, c'est une évidence, ça relève de la responsabilité sociale des entreprises. En revanche, embaucher aujourd'hui un jeune diplômé, pourquoi pas ? Mais ça relève là du carnet de commandes. Benoît Serre, vice-président de l'ANDRH.
Le marché du travail, il va être très mauvais probablement pour tout le monde, que vous soyez jeune diplômé ou pas jeune diplômé. Il y a une politique d'emploi beaucoup plus volontariste que semble faire le gouvernement, mais pour qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait croissance. On ne peut pas inventer des postes dont on n'a pas besoin.
Et Maya, la jeune diplômée, affirme qu'autour d'elle, de nombreux jeunes se sont déjà inscrits à d'autres masters ou de nouvelles formations pour ne pas être soumis cette année aux aléas du marché du travail.
Voilà, et pour l'instant, l'État a promis d'aider à l'embauche des apprentis. Un plan plus global pour l'emploi des jeunes sera présenté au début du mois de juillet. C'est aussi en juillet qu'on attend les conclusions du Ségur de la Santé, lancé il y a 15 jours. Grande concertation sur l'avenir de l'hôpital à la lumière de la crise sanitaire, pilotée par l'ancienne patronne de la CFDT, Nicole Notta. La semaine dernière, Sud Santé a claqué la porte, reprochant au gouvernement de ne pas entrer dans le vif du sujet. Et de fait, pour l'instant, Hélène Chevalier, rien de concret n'est sorti des premières réunions.
De l'avis de nombreux participants, Nicole Notta et son équipe ont une vraie qualité d'écoute, notamment sur le pilier le plus important de ce Ségur, la revalorisation des salaires. Evelyne Rescanière est la secrétaire générale de la CFDT Santé Sociaux.
Ça avance, on voit bien qu'au bout de 15 jours, il y a une restitution. Ils avaient pris l'engagement à recevoir tout le monde, ils ont reçu tout le monde. Et il y a des pistes qui se dégagent sur lesquelles maintenant on va travailler et où on va rentrer dans une négociation plus ciblée, plus centrée.
Mais aucune annonce concrète ni enveloppe financières n'ont été présentées, ce qui commence à en agacer certains. Le syndicat Sud Santé Sociaux a claqué la porte. D'autres attendent la fin de la semaine pour se positionner. Marie-Astrid Piquet du collectif Interhôpitaux s'interroge, elle, sur la méthode.
Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps de réel travail. Est-ce qu'on peut changer tout le système de santé en travaillant un jour par semaine pendant 5 semaines? Quand on est en visioconférence à 60 et qu'on a une réunion de 2 heures, ça ne va pas être facile.
Le collectif aimerait un moratoire dès maintenant sur certains projets.
On aimerait bien aussi qu'il y ait des marqueurs de quelques décisions rapides. Donc moi, je suis dans un hôpital où il va y avoir des suppressions de lits au moment de la reconstruction. On aimerait bien que ce soit officiellement suspendu. Parce que là, les projets, ils continuent à avancer comme avant, en fait.
Les soignants comptent sur la journée de mobilisation du 16 juin pour maintenir la pression sur ces négociations.
Et le patron de la CGT, Philippe Martinez, espère que les citoyens seront nombreux dans les rues avec les soignants le 16 juin pour manifester leur solidarité et réclamer du concret pour ceux qui ont été applaudis tous les soir pendant le confinement.
France Inter, il est 8h09, après 2 semaines de manifestations au retentissement mondial, Florence, les obsèques de George Floyd vont commencer à Houston.
Houston, Texas, ville natale de George Floyd, la population va pouvoir dès ce matin se recueillir devant sa dépouille avant son enterrement demain lors d'une cérémonie privée. Cet homme noir étouffé par un policier à Minneapolis, devenu le symbole de la violence raciste, symbole du changement qu'exige la société. Était sous les yeux de sa famille, dont le drame intime a pris une incroyable dimension. Envoyé spécial de France Inter à Houston, Grégory Phillips a pu rencontrer l'oncle de George Floyd. Il s'appelle Roger Floyd.
Il était le fils de mon frère, c'est cela. J'étais là quand il est né, il y a 46 ans. Roger Floyd est arrivé hier soir à Houston, Texas, avec une dizaine d'autres membres de sa famille. Je vois aujourd'hui mon neveu, explique-t-il, comme quelqu'un qui, par la volonté de Dieu, s'est sacrifié afin qu'un changement puisse intervenir. Nous devons obtenir ce changement. Nous n'avons pas le choix, parce que sinon, on aura le même drame la semaine prochaine, le mois prochain, dans un an, et on devra recommencer toute cette discussion. And we have this
conversation all over again. L'oncle paternel de George Floyd dit aussi que les manifestations qu'il a vues aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde lui donnent de l'espoir. Tout à l'heure, Roger Floyd rencontrera Joe Biden, l'ex-vice-président et candidat démocrate à la Maison-Blanche, qui viendra présenter ses condoléances à la famille.
There is systemic racism.
Il y a un racisme systémique dans ce pays, constate Floyd. Et je peux vous en parler, je l'ai expérimenté. Donc Joe Biden, on va tenter de voir ce qu'il veut vraiment faire. Il faut que les hommes politiques traduisent leurs propos en actions, en lois. Sinon, des policiers corrompus et criminels s'en sortiront toujours, même après un meurtre comme celui de mon neveu.
like my nephew experienced.
En quelques jours, Roger Floyd, l'agent d'assurance de Caroline du Nord, se retrouve en première ligne dans le combat pour l'égalité et contre les violences policières. Il le fait, dit-il, porté par sa foi et par le souvenir de son neveu. Houston, Gregory Phillips, France Inter.
Et la famille Floyd que rencontrera aujourd'hui Joe Biden, le candidat démocrate à la Maison Blanche. Les démocrates demandent une transformation profonde de la police aux États-Unis. Et justement, la police de Minneapolis va être démantelée sur décision du conseil municipal de cette ville où George Floyd a été tué. Un nouveau modèle de sécurité doit voir le jour là-bas. Et puis des manifestations contre le racisme ont eu lieu un peu partout en Europe hier, à Madrid, Rome, Budapest, Copenhague ou Londres, à Bristol. La statue d'un négrier a été déboulonnée et jetée dans la rivière. À Bruxelles, 10 000 personnes se sont rassemblées avant des incidents en fin de journée. En France, la police des polices a été saisie plus de 1400 fois en 2019. Chiffre révélé par l'AFP ce matin, en hausse de 24%. La moitié des saisines concernent des accusations de violences policières pour partie au cours des manifestations de gilets jaunes.
Il est 8h12, Florence. Dopage et corruption au tribunal de Paris aujourd'hui.
C'est l'ancien patron mondial de l'athlétisme, Lamine Diack, qui sera jugé avec son fils, soupçonné d'avoir perçu 3,5 millions d'euros pour couvrir des athlètes russes accusés de dopage, notamment aux Jeux de Londres en 2012. Vincent Pellegrini.
En mars 2013, face à des responsables de l'Agence mondiale antidopage, l'athlète russe Yulia Stepanova affirme que le dopage gangrène l'athlétisme de son pays. Débute une vaste enquête qui, au fil des mois, confirme ses propos. Mais celle-ci prend une autre dimension quand naissent des soupçons de corruption au plus haut niveau de la Fédération internationale. L'agence saisit alors le parquet national financier, car plusieurs faits présumés se sont déroulés sur le sol français. Lamine Diack et plusieurs de ses proches sont soupçonnés d'avoir touché de très grosses sommes d'argent venant de Russie. En échange, la Fédération internationale a autorisé des athlètes russes, fortement suspectés de dopage, à participer à de grandes compétitions comme les JO de Londres en 2012 et les Mondiaux de Moscou un an plus tard. Lamine Diack est également soupçonné d'avoir détourné de l'argent venant des contrats de sponsoring de la Fédération internationale à son profit et à celui de son fils, Papa Massata Diack. Ce dernier est également poursuivi par la justice française, mais il est réfugié au Sénégal et ne sera pas présent à son procès.
Diack, Lamine Diack a aujourd'hui 87 ans. Une tentative d'assassinat à Ajaccio. Hier soir, un tireur masqué a fait irruption dans une brasserie de la ville. Deux personnes ont été blessées par balle, dont une très sérieusement. L'assaillant est ensuite reparti sur son scooter. C'est un gigantesque bâtiment vide à Genève. Le siège européen de l'ONU à l'arrêt depuis la mi-mars. C'est là que s'arrête notre série ce matin. Comment ça se passe dans ces 2800 bureaux vides dans lesquels les premiers employés vont commencer à revenir aujourd'hui. Reportage à l'ONU à Genève, signé Jérémy Lange.
Le palais des nations de l'ONU a parfois des airs de hall d'aéroport. En ce moment, il ressemble plutôt à une immense usine désaffectée. Il faut bien marcher 10 minutes avant de croiser quelqu'un. Dans la salle de presse, un seul journaliste, le Sud-Africain Peter Kenny.
C'est plus facile de travailler ici parce que chez moi, nous avons 3 zooms parfois. Il y a beaucoup de bruit et l'ONU ici, c'est très tranquille.
En finant bien, on arrive quand même à trouver du monde, surtout des employés techniques comme Maude Musil.
Bâtiment E, alors celui-là c'est le colimaçon. Là on est en train de mettre en place différentes signalétiques pour les circulations, surtout les escaliers, ascenseurs et les couloirs. Il y aura des normes à respecter, devoir être seul dans l'escalier, une personne dans chaque ascenseur. On est à 50 ascenseurs, encore plus d'escaliers, c'est un sacré défi.
Seule la moitié des 3000 employés de l'ONU vont pouvoir revenir en même temps dans les locaux. Pas de quoi entraver les affaires international, estime Gianluca Espa, le responsable du bâtiment. Entre nous, les réunions qui font vraiment la différence ne réunissent que quelques personnes. Alors même avec 50% de nos capacités d'accueil, ces réunions pourront toujours avoir lieu à l'ONU, absolument. Quant aux visites de l'ONU qui attirent chaque année 100 000 personnes, elles sont toujours suspendues jusqu'à nouvel ordre. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Plus de 1000 cas de Covid repérés en Pologne ce week-end. Chiffres alarmants qui trouvent leur origine dans 2 mines de charbon de Silésie. Dans l'une de ces mines, les 2/3 des employés et leurs familles ont été testés positifs. En France, les chiffres sont de plus en plus rassurant. Après un mois de déconfinement, il ne reste plus qu'un millier de malades en réanimation. 13 morts hier dans les hôpitaux. Alors à quand l'accélération du déconfinement? Théoriquement, pas avant le 22 juin. Mais déjà, cette nouvelle étape de la reprise, la réouverture des aéroports de Lyon et de Nantes aujourd'hui à l'arrêt depuis le 15 mars. Les vols commerciaux ne décollaient ni n'atterrissaient plus. Presque 3 mois de répit donc pour les riverains des tarmacs avant la reprise des vols Air France aujourd'hui. Oubliez le vert paradis, Béatrice Duguay, c'est fini.
Difficile de se faire à l'idée que la quiétude du quartier a vécu.
Les petits oiseaux, plein de papillons, la nature a repris ses droits et pas un bruit. Ça va être dur.
Oui, on va en souffrir, on va en pâtir.
David et Claire habitent Saint-Aignan-Grandlieu, une maison en pleine campagne, achetée là parce que l'aéroport devait déménager vers Notre-Dame-des-Landes. Raté.
Alors là, vous êtes dans la rue qui donne sur le plus près de l'entrée de piste. Les avions atterrissent juste au bout de la rue, qui est à 200 mètres à peine.
Ici, les avions atterrissent et décollent une petite centaine de mètres au-dessus des habitations, de 6h à plus de 20h, effluves de kérosène et évidemment, bruit assourdissant pourrissent le quotidien des familles du secteur. Mais depuis près de 3 mois, l'enfer est devenu paradis. Et c'est le coq qui réveille David.
Il peut chanter, il a le droit, il est à sa place, lui. On revit. Après un déni de démocratie où l'aéroport n'aurait jamais dû être ici, on a retrouvé une période où on aurait peut-être dû avoir ça, c'est-à-dire une vie de campagne, très agréable, la nature, les oiseaux, la belle vie.
Le couple hésite aujourd'hui entre fatalisme et espoir.
Ben, moins d'avions. Si on peut effectivement diminuer par jour le nombre de vols, pour tout le monde, on serait très heureux.
Une vingtaine de compagnies aériennes proposaient des vols au départ de Nantes il y a 3 mois. Elles seront 5 seulement d'ici la fin du mois de juin.
Le Bourdon, c'est quand même moins bruyant qu'un Nantes-Lyon, qu'un Nantes-Roissy. Ce sont les deux liaisons qui reprennent aujourd'hui. Théoriquement, il ne devrait pas y avoir de Nantes-Orly.
Merci Florence Paracuelos.